l'Italie. Basta così. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission Pays fondateur. L'Italie va-t-elle s'isoler dans l'Union ou peut-elle au contraire devenir la locomotive d'un sursaut des nations européennes? Notre invitée, la philosophe Michela Marzano, nous rejoindra après le journal d'Antoine Mercier à partir de 12h55. Mais d'abord, un art de l'espace, celui de l'anarchitecte Gordon Matta-Clark. Il n'a cessé de déconstruire les structures, repousser l'infini. Le jeu de paume à Paris l'expose jusqu'au 23 septembre. L'artiste Xavier Veillant et le photographe Harry Gruyert nous parlent de lui et de la portée de son œuvre jusqu'à 12h30. Bienvenue à tous sur France Culture. Vous pouvez nous écouter en direct ou nous retrouver ensuite sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Maison occupée, maison découpée, immeuble effondré. Il a ouvert dès les années 70 une réflexion sur l'espace et la culture urbaine. Un regard critique sur l'architecture des villes et sur le paysage. L'artiste Gordon Matta-Clark avait un territoire, le Bronx, une passion, le cosmos. Pour en parler, deux invités, le photographe Harry Gruyert, membre de l'agence Bagnum, ami de Gordon Matta-Clark, que vous avez rencontré à New York. Qu'est-ce qu'il avait de plus fort, de plus visuel? Qu'est-ce qu'il y avait qui vous a donné envie de le photographier? Son regard, ses mains?
C'est quelqu'un qui avait une telle énergie, qui était tellement drôle en même temps, qui vraiment pétait le feu. Et donc, comme on a détruit tout ce qu'il a fait, c'était vraiment très important pour lui, qu'il avait des images, des photos, des films, de la vidéo. Parce que lui, il travaillait, il aimait travailler, donc il avait peu de temps pour faire des photos lui-même. Donc, je lui ai donné tous mes négatifs, tout ce que j'ai fait, et je lui ai conseillé d'acheter un arrondisseur 20-25, ça veut dire c'est un grand format, et tellement Gordon, il a commencé à couper dans le négatif et dans les hectares et dans le Kodachrome, pour faire des montages, et il a scotché ça avec du scotch et tout ça. Et ça donne une assez bonne idée de ce que ça a été. Ceci dit, moi, je suis très, très étonné que les gens sont tellement enthousiastes pour son travail maintenant, parce que pour moi, c'était vraiment une chose qu'il fallait vivre. Il fallait vraiment avoir été là. C'était vraiment mis en danger. C'était très, très physique. C'était de l'espace. C'était vraiment un truc qu'il fallait. Et j'ai vécu plusieurs trucs avec lui et je suis tellement content de l'avoir connu parce que c'était une personne absolument formidable.
Vivre sur le moment, vivre sur les lieux, au moment où tout cela laissait des traces. Aujourd'hui, on reconstitue quelque part son œuvre, sa démarche, sa réflexion ensemble, à nos côtés. Et je ne vous ai pas dit bonjour, Harry Gruyert. D'abord, bonjour. À nos côtés, l'artiste plasticien Xavier Veillant. Bonjour à vous.
Bonjour.
Relier l'art à l'architecture, un mouvement au centre de votre démarche. Aussi, vous avez représenté la France à la dernière Biennale d'art contemporain de Venise, avec le studio Venezia, un pavillon musical que vous avez conçu et créé là-bas. À noter aussi la diffusion prochaine d'un film documentaire qui va retracer cette aventure collective et musicale, Veillant Venezia, de Laurent Baucher et de François Combin. Gordon Matta-Clark, est-ce qu'il était d'abord pour vous, Xavier Veillant, un artiste qui aimait travailler sur la matière ou un théoricien qui aimait réfléchir sur l'époque?
Je pense que ce qui m'a surtout attiré vers son travail, c'était la manière de prendre à bras le corps les questions liées à l'espace, liées à l'architecture. Parce que très souvent, même si j'étais pas encore artiste quand j'ai rencontré son travail, j'ai acheté il y a très longtemps à l'IAC, l'Institut d'art contemporain à Lyon. Il y avait une expo de lui, et il y avait un catalogue, et que j'ai apporté d'ailleurs. Un vieux catalogue de Chicago. Et je sais pas pourquoi j'avais acheté ce catalogue à l'époque, parce que ça représentait un investissement et j'étais pas encore artiste, j'étais pas encore là-dedans. Mais ce qui m'a séduit sans doute, c'est cette manière de en déconstruisant les espaces, de les révéler. Parce que finalement, quand on est artiste, on bute souvent sur l'architecture, en fait. L'exposition s'arrête là où l'architecture commence. Alors que lui, il a d'abord investi des lieux qui n'étaient pas des lieux d'exposition à proprement parler, mais il les a révélés. dans leur tridimensionnalité, dans leur, même dans les pratiques qu'on pouvait avoir à l'intérieur, il les a ouverts à d'autres pratiques.
Alors, exposer aujourd'hui Gordon Matta-Clark, comme on ne peut pas ramener les structures, les immeubles sur lesquels il a pu travailler, c'est forcément montrer des photos, c'est montrer des films, c'est montrer des gravures aussi, et c'est ce à quoi s'attache aujourd'hui le Jeu de Paume. En quoi son œuvre est-elle impossible à déconnecter de son époque, de son contexte, comme l'évoquait à l'instant Harry Gruyaert? On va peut-être le revers de ça, essayer de comprendre aussi ce qu'il a encore d'actuel, ce qu'il a encore à nous apprendre. Il faut raconter que c'est vraiment un artiste des années 70. Rappelons un tout petit peu sa vie, Harry Gruyaert, si vous voulez bien. Il est né de parents artistes, fils du peintre surréaliste chilien Roberto Matta et de la designer américaine Anne Clark. Il est mort jeune, à 35 ans. Il y a 40 ans exactement, il a été diplômé de l'école d'architecture de l'université de Cornell en 68. Il va s'installer à New York, dans ce tournant des années 70. New York, il va devenir sa ville. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans ces années-là, dans cette décennie 70, d'important aux États-Unis ?
Oh, il y avait une énergie tout à fait particulière. Hein. C'est, donc, il y avait, donc, moi, j'ai connu Richard Nonas, Gene Heistin et Gordon et Elana Heiss, qui était donc la femme de Gene Heistin. Et c'est elle qui commençait PS1. Et donc... je l'ai vu récemment, elle m'a raconté au fait que ces gens-là n'avaient pas de galerie, ils râlaient un peu, et ils disaient, moi je vais faire quelque chose, je vais vous trouver un lieu. Elle a fait l'idée incroyable de prendre un pier de New York, je ne sais pas comment dire en français, un pier...
Un ponton, un quai.
Un ponton de quai où les bateaux avant arrivaient, et qui n'arrivaient plus. Et donc, elle vous avez installé là d'une façon complètement illégale, c'était complètement illégale. Elle avait un petit problème avec, en disant, pour la sécurité, et les gangs espagnols qui traînent par là, donc c'est pas très... c'est un peu compliqué. Donc, elle a eu l'idée de parler à la mafia, qu'eux avaient un truc là-dedans, une petite entreprise apparemment qui s'appelle Colonial Cement. Et elle disait, c'est sûrement le cement qu'ils utilisaient pour faire disparaître les cadavres. Et... elle est allée voir pour qu'elle défende contre les gangs qui auraient pu saccager la chose qu'elle a fait. Et les mafia, ils ont dit, ah, mais on est italiens, nous, on aime l'art, donc pas de problème, et tout de suite. Donc après, elle commence à payer soin, c'était des trucs qui sont plus possibles maintenant, je pense. C'était vraiment, il faut penser aussi que tout ce que Gordon a fait, c'était vraiment... assez dangereux, ça veut dire que c'est étonnant qu'elle ait eu l'autorisation de faire ce qu'elle a fait. Parce que maintenant, ce serait plus possible. Il y a trop de sécurité, trop ci, trop ça. C'était vraiment quelqu'un qui provoquait les choses et qui osait, quoi, et qui allait. Parce qu'il a fait à Paris, là, son grand œuvre à Paris, il a fait seulement une semaine. Et une semaine après, tout était démoli déjà.
In situ, c'est un des mots-clés de son œuvre et de sa démarche. Xavier Veillant, c'est quelqu'un qui travaillait effectivement sur place. Aujourd'hui, peut-être on n'aurait pas la même liberté de mouvement et de réflexion et de création sur ces espaces. Pourquoi il était important pour lui d'aller sur place et de travailler sur place ?
Moi, je relis un petit peu à une manière de considérer l'art dans l'espace public qui a été fait au même moment par des gens comme Claes Oldenburg ou Marc Di Suvero ou des formes plus héroïques de la sculpture à une certaine échelle. Et lui, en fait, il est vide, il retire de la matière, mais en retirant de la matière, comme dans Conical Intersex, cette pièce très importante qu'il avait faite devant le Centre Pompidou, qui était alors pas encore construit. En fait, en perçant le bâtiment, il montre à la fois la structure interne du bâtiment, il révèle la manière dont il est construit, il révèle une transparence, mais il donne corps au bâtiment tel qu'il existe, tel qu'on le voit jamais. Un peu comme on fait en mécanique, autrefois on faisait un éclaté d'un moteur ou on montrait l'intérieur de quelque chose, ou une coupe anatomique ou quelque chose comme ça. Et cette manière d'aborder les choses, mais surtout l'engagement qui était de l'ordre de la performance aussi, même s'il n'était pas forcément public, mais quand on voit les films qui sont montrés au Jeu de Paume, là c'est très spectaculaire, parce que c'est vraiment, on se rend compte du danger et de la prise de risque. Et on est un peu comme devant un commentaire sur un texte qui aurait disparu, parce que moi, par exemple, je crois, on en parlait juste avant, mais je crois que j'ai jamais vu de pièces de Gordon Matta-Clark réellement, mais elles existent pour moi d'une manière presque plus intense, parce qu'elles existent au travers d'une mythologie et d'une documentation.
La performance, c'est qu'on le voit percer des murs, on le voit se suspendre dans les airs, on le voit percer des structures entières, découper. C'était là où c'était quand même aussi un artiste qui réfléchissait beaucoup à sa pratique, mais qui mettait vraiment les mains dans le cambouis.
C'était aussi du travail bien fait. C'était pas seulement les murs, c'était aussi les meubles, c'était aussi les escaliers, donc le bois, et ainsi de suite. Donc c'était vraiment bien fait. Il adorait le travail physique.
Oui, c'était donc pas qu'un regard. C'était aussi un corps en mouvement.
Absolument.
C'est et il aimait cet affrontement, cette confrontation presque physique avec la matière.
Absolument.
Ça lui venait d'où?
C'était quelqu'un de très physique. Hein. C'est quelqu'un qui était très, très généreux aussi, très, très drôle, très, beaucoup d'amis. Je pense que tout le monde aimait Gordon.
Alors, on va écouter son frère, Ramuncho Matta, qui travaille et vit aujourd'hui à Paris. Parlez-lui de cette grande famille, Gordon Matta-Clark.
C'était une exigence qui demandait à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde était dans le même cas, que ce soit Philip Glass, Bob Wilson, etc. Tous les gens qui faisaient partie de la bande, Joseph Kossuth, enfin, j'en avais plus toute cette bande, c'était tous un lien, c'était une famille. Et ça, c'était vraiment très impressionnant. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il avait un réel discours sur la pertinence, c'est ça que je voulais te dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'art moderne, etc., etc. Et la modernité, ce n'est pas forcément la nouveauté. Ça, c'est une des choses qu'il m'a appris. C'est-à-dire qu'il faut absolument, à tout prix, voir dans tout ce qu'on se dit, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on vit, à quel moment on triche et à quel moment on est vrai. Et ça, je crois que c'était... Et c'est cette amitié qu'il y avait entre tous ces gens à cette époque, c'était cette espèce d'exigence des uns envers les autres. Comme devrait être véritablement une famille. Une famille, habituellement, entretient les névroses des uns et des autres pour garder l'équilibre, enfin, l'équilibre social, alors que lui, ce qu'il cherchait, c'était à provoquer justement une espèce de déséquilibre pour aller plus loin dans les subjectivités de chacun et dans les exigences. Je me rappelle de nuits entières de parler entre tous ces artistes qui maintenant sont devenus des demi-dieux, alors que c'est tous des gens absolument normaux, et ils se déconstruisaient les uns les autres. Et ça, c'était hyper intéressant. Ils devenaient de plus en plus vrais. Il n'y avait aucun esprit carriériste non plus. Et ça aussi, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'avant tout, pour eux, l'art, c'était pas une profession. C'était une manière d'avoir une relation honnête avec le cosmos. Et moi, j'en ai parlé très souvent avec beaucoup d'entre eux. Idéalement, on ne devait pas vendre son art. Lui-même, il vivait avec food. Ou alors, il faisait des chantiers. Il retapait des maisons pour les revendre après. C'est comme ça qu'il gagnait sa vie. Il trouvait qu'il fallait avoir un métier normal et que l'art devait être toujours préservé du marché.
Le frère de Gordon Matta-Clark, Ramuncho Matta, exposé encore récemment à la galerie Anne Barrault à Paris, Xavier Veillon, une réflexion honnête avec le cosmos. Qu'est-ce que ça signifie ?
Je pense qu'il y avait aussi une époque qui menait à ça et qui faisait qu'il y avait une réflexion... Tous les architectures utopiques qui ont inspiré des architectes comme Piano et Rogers dans la construction du Centre Pompidou, par exemple. C'est-à-dire que lui, il a vécu un moment charnière. Il est mort au moment où le mouvement punk arrivait, mais aussi où il y avait sans doute une reprise en main du marché. Autour des pratiques artistiques qui tentaient d'échapper au marché. Mais ce qui me paraît le plus intéressant avec lui, c'est cette façon d'être complètement engagé physiquement, avec une compréhension des choses qui passe par des structures déjà existantes, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'ajout ou l'accumulation ou la fabrication d'objets, mais au contraire, une sorte de commentaire, le mot est trop faible parce qu'il est encore plus engagé que ça, mais de propos qui est directement sur l'état existant de la ville, par exemple. Et en ça, il était dans une forme utopique, mais qu'il a mise en pratique avec, par exemple, ce restaurant génial dont Récrit Tiravanija, par exemple, a pu s'inspirer, ou d'autres artistes de ma génération, qui s'appelait Food. Et il y a un film génial où on voit comment fonctionnait ce restaurant, comment ils allaient faire les courses, etc. Et c'est une manière de faire qui est très liée à une époque qu'on peut sans doute retrouver, mais je ne sais pas si on pourrait la retrouver avec la même intensité. pour moi, c'est des choses qui sont liées à... c'est à mon adolescence, en fait. Donc, je pense qu'elles se sont beaucoup transformées depuis.
Harry Goyard, vous dites pas autre chose sur la particularité de ce temps, de cette époque, et Gordon Matta Clark ne peut pas être déconnecté. On l'entend même dans ce que dit son frère, Ramuncho Matta, de ces années, de cette décennie, où l'art n'était pas une marchandise, où il cherchait à préserver aussi son art, ses créations, de ces dictats du marché qui a pris de l'ampleur par la suite. Mais si on essaye de raconter à ceux qui nous écoutent ce qu'il faisait précisément, vous pouvez nous donner un exemple d'un projet de lui que vous avez suivi? Est-ce que c'était Walls? Est-ce que c'était Bronx Floors? On entend que cette période, celle du démantèlement du tissu urbain, de l'abandon d'immeubles, voire de quartiers entiers, lui, il en a fait un lieu d'intervention privilégié, des interventions presque chirurgicales sur la structure. Est-ce qu'il y a un projet qui vous a marqué, que vous pouvez nous raconter?
Il était très intéressé aussi dans les souterrains. Je me rappelle d'avoir fait avec lui des voyages dans les souterrains à New York. Moi, je suis un peu claustrophobe, donc je n'aimais pas trop ça, mais il m'a demandé de porter la caméra vidéo pour le filmer, lui, en le suivant. Une autre expérience que j'ai fait avec lui, c'était, j'étais avec lui quand il allait acheter son premier vidéo porter pack. C'était avec une grosse batterie. Et c'était en dehors de Manhattan quelque part. Il avait un pick-up truck, c'est lui qui conduisait. Et il m'a demandé de m'allonger dans le pick-up truck et filmer complètement Manhattan avec tous les skyscrapers, avec sa caméra qu'il venait d'acheter. Donc c'était vraiment le premier prise de vue qu'il a fait avec sa caméra. C'est ce que moi j'étais donc, allongé dans un pick-up truck et j'ai filmé ça. Je ne sais pas ce que c'est devenu. Il a fait des choses tellement, ce qu'il a fait sur le Clock Tower là, de se raser et tout ça, de le bain et tout ça, c'est tellement, tellement génial. C'est Buster Keaton aussi. Il y a ce côté là aussi. Et en fait, un truc très étonnant que Jane, sa femme, a dit très récemment, c'est que avant de mourir, il a dit, écoute, je pense que j'ai fait, c'est vraiment pas très important, et c'était pas encore assez bien. Et tu vas t'emmerder avec tout ce que j'ai laissé. Il vaut mieux que tu foutes tout ça à la poubelle. Incroyable.
Ce qui n'a pas été fait. Ouais. Xavier Veillant.
Et moi, il y a une pièce qui m'a beaucoup frappé, qui s'appelle Jacob's Ladder, qui était une pièce qu'il avait conçue pour la Documenta, où il a utilisé, là aussi c'est quelque chose de très visionnaire, il a utilisé deux tours de briques, de cheminées, et qu'il a relié au sol avec une sorte de filet, un peu comme il y a sur les mâts des goélettes, qui permettent de monter dans les mâts. Et cette pièce, c'était en fait une pièce qui faisait le lien entre l'univers horizontal et l'univers vertical, et qui avait une forme de transgression, parce que tout à coup, on pouvait monter, escalader quelque chose qui était quasiment impossible sinon d'atteindre. Et il y avait quelque chose un petit peu comme aujourd'hui on voit qui est complètement apparu et qui s'est réalisé dans les sports extrêmes. On voit des gens faire des choses complètement incroyables qui sont une transgression de la chute libre, par exemple. Et là, il y avait quelque chose de très beau aussi. Je crois qu'il avait eu quelques difficultés à faire cette pièce.
Mais... Oui, un problème de sécurité. Il avait peur que les enfants allaient grimper là-dedans et que s'il y a ça. Donc, il fallait mettre une échelle pour aller jusque-là et l'échelle n'était pas là. Il n'était pas très content de la finalité de ça.
En tout cas, il y a des images avec des corps qui sont pris dans les filets, qui sont assez frappantes.
Alors on a évoqué son regard sur le Bronx, sur les transformations new-yorkaises, plus largement sur cette culture urbaine et notamment celle aussi des graffitis, un peu moins ses liens avec Paris. Vous avez évoqué, Xavier Veillant, cette œuvre Conical Intersect qu'il a réalisée en 75. Comment lui en parlait? Je vous propose de l'écouter à cette occasion-là. Il était à Paris et son français était très bon.
Oui, très bon.
Mes seules justifications, c'est que I was able to get away with it, mais ça veut dire de le faire, de le réaliser en dépit de tout ce qui est contraire, de tout ce qui peut être, refoulant ou qui empêche, qui pourrait empêcher de réaliser. Alors c'est ça. Je vois comme une sorte une travail dans une condition résistante comme ça, autant matériel que quoi dire, socio-économique.
Xavier Veillant, vous pouvez nous raconter à cette occasion-là ce qu'il a fait, ce qu'il a voulu montrer, ce qu'il a voulu raconter. Même lui a du mal, hein. C'est pas facile de traduire, d'expliquer.
Donc faut imaginer le quartier de Beaubourg, qui était un quartier où l'esplanade, il y avait un parking qui était à l'emplacement du Centre Pompidou. Et il y avait toutes ces habitations insalubres qui étaient autour et qui allaient être transformées. En fait, c'est à l'endroit qui est maintenant devenu, qu'on appelle le quartier de l'Horloge. Et un bâtiment qui donnait sur la rue était amené à être détruit. Et donc, il a creusé dedans une sorte de cône qui était un peu le cône de vision inversé de ce qu'on pouvait voir de la rue. C'est-à-dire qu'on pouvait, depuis la rue, rentrer dans le bâtiment en traversant non seulement la façade, mais les différents murs, les planchers, jusqu'à pénétrer à l'intérieur du bâtiment.
Voilà, le quartier était en pleine rénovation, réaménagement, et lui va, à l'occasion de cette 9e Biennale de Paris, créer cette ouverture, en fait, hein, en forme de cône qui va permettre de voir, d'inverser aussi les perceptions.
Voilà, et il retire quelque chose, parce que la pièce est faite par retrait matériel de la matière, mais aussi elle est faite dans une urgence et à un moment qui est très précis. C'est sans doute la seule pièce dont on se rappelle de la Biennale de Paris, alors que d'autres avaient une matérialité plus forte. Donc c'est aussi intéressant parce que en développant quelque chose qui échappe à la matérialité, il s'inscrit encore plus fort dans l'histoire de l'art et dans l'importance de son travail.
L'artiste américain Gordon Matta-Clark avec nos invités, l'artiste plasticien Xavier Veillant et le photographe Harry Gruyart. France Culture, il est midi 24.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
Des projets de démolition et de stratification avec une forte connotation politique mais non dénuée de poésie, ainsi pourrait-on résumer, condenser l'œuvre et la démarche de Gordon Matta-Clark, actuellement exposé au Jeu de Paume à Paris. D'où ce qualificatif d'anarchitecte, sorte de mot-valise, contraction, Harry Gruyart, d'anarchisme et d'architecture. Il avait aussi une conception de l'art en lien avec l'architecture sur laquelle vous travaillez, vous également Xavier Veillant. Il faut raconter qu'il arrive après une période de grande théorisation de l'architecture. Est-ce qu'on peut résumer facilement en disant que c'était un peu l'anti-Le Corbusier?
Oui, il y avait ce livre « Vers une architecture » de Le Corbusier qui était un peu le dogme qui est encore toujours appliqué parfois aujourd'hui. Mais il était très sérieusement remis en question par tous ces architectes utopistes qui étaient dans l'expérimentation, mais qui ont bientôt donné des formes qui sont très inscrites. Je pense que à l'influence de Archigram, c'est un architecte qui voulait échapper au diktat du modernisme.
Mais justement, quelle contradiction de l'architecture moderniste, formellement très novatrice, lui a pointé? Son côté excluant aussi?
Je pense que déjà, il partait, son architecture était basée sur une architecture existante. Donc il y a cette pièce très connue sur les piers que vous mentionniez. Je crois qu'il y a un projet d'ailleurs du Whitney Museum de faire intervenir, de reconstruire la structure.
Ah bon?
C'est Adam Weinberg qui prépare ça avec David Ammons. Ouais. Et qui est donc un acte de reconstruction, mais lui était plutôt dans la déconstruction. Mais en déconstruisant, il inaugurait des pratiques qui étaient complètement différentes. Il y a toujours une idée de recyclage qui est assez visionnaire par rapport, par exemple, à la Biennale de l'architecture qui a lieu en ce moment à Venise, où il y a cette idée de recyclage. Ils ont encore heureux les vainqueurs du pavillon cette année.
Qu'on a reçu ici autour de cette grande table, voilà, pour en parler.
Ils ont recyclé
notamment votre pavillon, ouais, Nicolas Delon.
Ce qui était un plaisir, mais c'était une démarche qui était assez nouvelle, je pense, dans les années 70 et qui essaime encore aujourd'hui.
La seule pièce physique qui existe de Gordon, c'est ce qu'il a découpé. Donc, c'est dans certains musées, ils ont eu deux pièces, mais bon, ça donne pas une très bonne idée de ce que c'était. Mais donc, et aussi parfois des bouts de meubles qu'ils ont mis ensemble, qui étaient à l'époque. Mais bon, ça donne une faible idée de ce que ça peut être.
L'exposition, oui. Le Jeu de Paume le présente aujourd'hui comme un artiste engagé. Il y avait peut-être le sentiment que ce territoire qu'il occupait était un terrain à la fois d'action, mais aussi d'intervention et d'engagement pour l'artiste qu'il était. Comment résumer un peu la philosophie de son travail? Se mouvoir librement, ne pas se laisser enfermer, s'approprier l'espace plutôt que d'en être prisonnier. C'est aussi ça qu'il cherchait à dire dans une forme de manifeste à travers son travail pour vous, Arrigo. L'époque était politique, mais lui, il était aussi.
Par exemple, un bon exemple, c'est ce qu'il a fait pour les graffitis. Là. C'est qu'il a été chercher. Il a acheté une voiture, un pick-up truck, où il a. Parce que lui, il aurait voulu faire une expo qu'il n'a pas pu faire. Et il était allé chercher les gens qui faisaient des graffitis, parce que c'était l'époque où on commençait à faire des graffitis dans le métro, qui était complètement nouveau à New York. Et donc, il a demandé de venir à Manhattan, qui est le truck, il était dans Worcester Street, je pense. Et donc, ils ont fait les graffitis là, et lui, il a découpé après, au chalumeau, des bouts qu'il a vendus, pour des prix complètement ridicules, à gens qui étaient intéressés là-dedans. Donc c'était une façon d'engager ces jeunes mecs qui faisaient des graffitis dans un lieu comme Manhattan, qui était complètement incroyable.
Ça évoque ces morceaux du mur de Berlin qui ont voyagé partout dans le monde suite à la fin.
Apparemment, il a voulu faire un trou dans le mur de Berlin aussi.
Aussi, mais, c'est pas étonnant.
Donc il n'a pas. C'est un peu dangereux.
Vous avez gardé, vous, et ce sera la dernière question, Harry Gruyaert, un morceau de quelque chose, d'une de ses œuvres qu'il aurait créé chez vous, à part les photos que vous avez pu prendre de lui? Il vous reste une petite pierre quelque part.
C'est un souvenir formidable de cette personne que j'étais très content d'avoir connue et ça me suffit.
Et qu'on peut découvrir actuellement au Jeu de Paume à Paris. Merci à vous, Harry Gruyaert. Merci beaucoup, Xavier Veillon. Je rappelle donc qu'on va pouvoir voir sur un documentaire qui sera diffusé prochainement, revoir tout le processus qui a amené à votre pavillon français, à votre studio Venezia l'an passé à l'occasion de la Biennale.
C'est sur une chaîne qui s'appelle Muséum TV.
Muséum, exactement. On mettra toutes les références sur la page de la Grande Table. Merci à tous les deux.